Extrait du tome 1, La prophétie d'Accus, un livre d'Égérie, lu par Émilie Loyer. Cet extrait vous est offert dans le cadre du financement participatif pour la création du livre audio du livre. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Installé sur la chaise du secrétaire, José préféra rester en retrait. Sceptique comme à son habitude, il attendit là de voir ses cousines faire une réelle découverte ou accuser une nouvelle déception. La couche de velours ôtée intégralement, l'écrin révéla enfin son secret. Bien au-delà de leurs attentes, elles purent enfin admirer, sans nul doute, le seul vrai trésor de la maison. Tout le temps consacré à leur recherche s'avérait finalement fructueux et méritait bien cette récompense. Leurs yeux étincelèrent d'émerveillement à sa vue. Le trésor se révélait à la hauteur de la beauté de l'écrin. Leur silence hébété intrigua José. Il finit par s'approcher et contempla à son tour la merveilleuse trouvaille. Un énorme médaillon de cuivre, un peu terne mais non oxydé, reposait sur un lit de velours ocre, occupant tout l'espace que lui offrait le coffret. L'étrange bijou dégageait quelque chose d'envoûtant. Cette même sensation captivante ressentie face au miroir comme dans la pièce secrète. Ce sentiment d'angoisse installé depuis leur entrée dans la demeure les poussant par là même à aller jusqu'au bout de leur quête pour en connaître tous les secrets. Et désormais, l'objet à portée de main, la maison coloniale leur dévoilait son dernier arcane, sans plus rien à cacher, telle une amie confiant son plus grand secret. Un vieil homme à la barbe traînante se dessinait sur la face visible du bijou. Un médaillon semblable pendait lourdement à son cou. Sa main gauche serrait une boule de cristal quand l'autre s'agrippait à une épée. Trois quartiers inégaux divisaient singulièrement la représentation. Le plus petit d'entre eux isolait la tête de l'homme, qu'il pouvait sans mal s'imaginer être un mage. Les deux plus grands quartiers dissociaient la partie droite à la boule de cristal de la partie gauche à l'épée. Alors que les sillons se creusaient, distinguant les trois parties, leur sommet se dessinait pour se rejoindre au centre du médaillon, porté par le vieil homme. Lucie le délogea afin d'en voir l'autre face, et y retrouva les trois mêmes quartiers. Inscrits dans chacun, des termes latins rappelaient l'inscription du couvercle. Les mots sapere, forcia et magia s'inscrivaient derrière la tête du mage, l'épée et la boule de cristal. Même si leur signification leur échappait parfaitement, l'amulette les fascina. Marie voulut à son tour apprécier l'objet et chercha à le dérober aux mains de sa sœur. Mais Lucie ne l'entendit pas de la même oreille. Persuadée de s'en faire définitivement destituer, elle le lui refusa. Elle s'était donné suffisamment de mal pour le dénicher et rien ne présentait plus de valeur dans la maison que cette précieuse amulette. « Allez, passe-le-moi !» s'insurgea Marie. « J'ai bien le droit de le voir, moi aussi. En plus, c'est moi qui ai trouvé la clé. » Là où elle était, j'aurais bien fini par la trouver toute seule. « Tu as déjà le coffret, alors passe-moi le médaillon. »« Pas question. C'est moi qui l'ai trouvé. Et je te connais, tu ne vas pas me le rendre. » Agacée par son entêtement, Marie saisit le bord de l'amulette et tenta de le lui arracher des mains. Mais Lucie refusa de lâcher prise. La main ferme sur le rond de cuivre, elle s'empressa de poser la cassette sur le sol, aussi délicatement qu'il le lui était possible, afin de lutter efficacement contre sa sœur. « Donne-moi ça !» « Non, pas question !» José prit part à la bagarre, irrité par ses chamailleries, et voulut s'emparer de l'objet de la discorde. Il agrippa à son tour un bout de médaillon et tira de toutes ses forces pour leur soustraire. Il ne put que déplorer la détermination de ses cousines à entrer en possession du fabuleux bijou. Elles tiraient de toutes leurs forces, chacune de leur côté, et lui luttait du sien. Ainsi, le pire se produisit. Plus fragile qu'il ne se le figurait, le médaillon se brisa. José, Marie et Lucie restèrent quoi, chacun avec un quartier de l'épée médaillon en main.
« T'as vu ce que t'as fait ?» s'énerva alors Lucie. « À cause de toi, mon médaillon est cassé. T'es vraiment nul, hein ?»« C'est ta faute si tu me l'avais prêté. Ça ne serait pas arrivé. »
Et la voix de Marie s'éteignit sur ces derniers mots. Un vent terrible s'était levé, si violent et si brusque qu'il parvint à en ouvrir brutalement la fenêtre de la chambre. Au dehors, d'épais nuages d'encre menaçant obscurcirent le ciel auparavant si bleu. Marie, José et Lucie pouvaient déjà entendre le tonnerre de l'orage qui s'annonçait résonner au-dessus de la maison. Oubliant leur dispute, ils écoutaient et observaient l'orage qui se préparait,
silencieux et stupéfait. Rapidement, le vent se mit à souffler avec plus d'intensité, balayant la poussière de la chambre à leur visage.
« Qu'est-ce qui se passe ?»
brailla José, terrifié. Tout comme ses cousines, il n'entendait rien à ce qui se produisait. Contraint de hurler pour se faire entendre à travers les rafales assourdissantes, il n'eut pour toute réponse que les cris de Marie et Lucie, que les grains de poussière frappaient, tels des aiguilles. La tempête s'intensifia et, tandis qu'il tentait de s'approcher de la fenêtre pour la refermer, des bourrasques plus terribles les repoussaient toujours plus loin. Les courants d'air violents repoussaient également le coffret, reposant toujours sur le plancher, débarrassé de sa crasse. Lorsque leurs yeux se posèrent à nouveau sur lui, il leur apparut que le vent n'était pas le seul à se déchaîner. Constat de l'effroi, le boîtier réagissait aussi.
« Mais bon sang, qu'est-ce qui nous arrive ?»
Protégé derrière les carreaux de ses lunettes, José parvenait encore à entrevoir l'intérieur de la chambre plus nettement que ses cousines, aveuglées par la poussière. De l'intérieur du coffret, jaillit une intense lumière blanche, aveuglante. Elle se répandit dans toute la pièce, comme une brume éblouissante, avant de prendre des teintes de vert et de bleu pastel. Brusquement, la poussière se leva en trombe, tourbillonnant dans la pièce entière. La brume aveuglante tournoya elle aussi pour les envelopper. Le vent gagnait en puissance, au point de les soulever du sol.
« Donnez-moi la main !»
hurla Lucie.
« Lucie, où es-tu? Je ne te vois pas !»
s'égosilla Marie. Ne parvenant ni à se voir et à peine à s'entendre dans cette cacophonie de coups de tonnerre et de rafales assourdissantes, chacun ignorait où les autres se situaient dorénavant dans la pièce. Transportés par le vent, ils ne parvenaient plus à s'atteindre. Les trombes brumeuses les entraînaient dans une valse effrayante et brutale, les suspendant dans les airs comme des pantins. Portés juste au-dessus de l'écrin, ils tourbillonnèrent à vitesse grandissante jusqu'à en perdre connaissance. La brume lumineuse pénétra alors dans le boîtier, emportant avec elle ses prisonniers. Le coffret aspira brume et vent avant de se refermer, les faisant ainsi disparaître, eux aussi. Enfin, la tempête s'apaisa. Enfin, les nuages se dissipèrent et la poussière retomba sur le plancher, comme si elle ne l'avait jamais quitté. Seule, la fenêtre restée ouverte et le coffret, demeurant au sol, offraient encore leur témoignage des terribles événements survenus dans la chambre de la demeure coloniale.